Voilà, ils ont fait de la merde, comme ils ont dit.
Vous attendez de moi de dire que qu'on joue la montée, et bah, je suis pas venu aujourd'hui.
Madame, mademoiselle, monsieur, heureux de se retrouver dans l'encre du moustoir.
Cheville,
et but de Cheville.
Attention à cette remise! La remise exceptionnelle de Donnarumma!
Un dégât! Oh, Lorient pour un face au Paris Saint-Germain!
Le but de Lorient de Kevin Bonnet-Pagnol!
Pour le football club de Lorient! Van Wijnald!
Avec deux Lorientais absolument seuls! Attention à Brielle! Et l'égalisation de
Lorient face à Mamadou Sekko!
Abriel qui va servir Kevin Gamero peut-être pour le but du chaos! Gamero! Lorient met 3 buts à 2!
Il y a peut-être 3 points à prendre si ça arrive jusqu'à Maxi Duaris! Le voilà, le ballon derrière Maxi Duaris face à Tchernik qui va retrouver le 3ème but des Lorientais, Arnold de Vuemba qui permet à Lorient.
Le Moine, pourquoi ne pas tenter sa chance?
Et Lorient qui va accélérer encore. Côté gauche pour Bozog dans la surface, frappe de Bozog et deuxième but!
Sorte avec Ponceau, Claude Maurice, à droite, il y a une solution, Claude Maurice en solo, Mendes finalement servi, deuxième but, c'est parfait, pim pam poum, je te donne le ballon à droite, Mendes centre pour Gaëtan Courtet, l'ancien Brestois qui conclut cette action. C'est facile le football quand on joue comme ça.
Bonjour à tous, bienvenue dans la taverne, ravi de vous retrouver après un nouveau week-end de folie du côté du FC Lorient. Pas du tout, le FCL est sorti du top 10 après une nouvelle prestation. On cherche les qualificatifs encore. On va dire une prestation contre Toulouse. Le FC Lorient est donc 11e de Ligue 1 avec 45 points, à égalité avec l'OGC Nice, c'est peut-être la seule chose intéressante, qui est 10e. Clairement, on nous est passé devant. Bref, rien ne va plus FC Lorient. Comité très restreint aujourd'hui, je suis avec Raphaël Lecor. Salut Raph.
Salut à tout le monde. Je pense que les vrais supporters sont là en fait. Tous les autres ont arrêté de regarder le FC Lorient, je pense.
C'est ça, en fait, Lucas, Camps et Pierrot sont en vacances, un peu comme nos joueurs qui ont pris des vacances de bonheur cette saison. Dimanche, on recevait Toulouse à la maison. Toulouse qui a plus grand chose à jouer dans son championnat. C'était quoi? C'était valider le maintien pour eux en cas de victoire. 41 points, on prépare la finale de la Coupe. Bref, ils venaient un petit peu en claquette au FCL. Et bah, ils ont gagné, Raph.
Ouais, pas beaucoup d'enjeux, en fait, finalement, pour les deux équipes, même si dans les discours, ça parle souvent d'objectifs de fin de saison, d'essayer de finir le plus haut possible, etc., etc. En tout cas, dans les intentions, on n'a pas vu un match... un top match en fait hein, du FCL.
On s'est ennuyé,
on a vu très peu d'intention, je trouve assez peu d'agressivité et ce nouveau système qui du coup a pas forcément été non plus une clé du match. Je pense que ce qu'il y a à mettre quand même au positif, c'est qu'on a une possession, c'est le deuxième match où on touche le plus le ballon. C'est aussi une possession qui est assez haute sur le terrain puisque c'est notre deuxième possession du coup également le plus haut sur le terrain parce que sur le tir offensif on a plutôt fait circuler le ballon. En revanche, c'est aussi énormément de déchets techniques dans le dribble, dans la dernière passe, dans les derniers mètres, etc. On s'est mis très très peu en situation. Si bien qu'en fait, on est dans le flop 3 du coup des prestations offensives du FCL cette saison, puisqu'on sort de ce match avec un seul petit tir cadré, c'est-à-dire autant qu'à Lille et autant qu'à Lyon. Donc, ce qui est très frustrant, c'est qu'il y a un potentiel de ballon positionné très haut sur le terrain, mais avec une finition désastreuse, mais même pas de finition désastreuse, puisqu'on ne sait pas créer ces options de tir. Donc, match très frustrant parce que finalement on n'a pas non plus été mis tant que ça en danger, mais je trouve que le peu d'occasions que Toulouse a pu avoir, ça a été un petit peu plus tranchant que ce qu'on a pu se procurer. On ressort de ce match-là en fait finalement avec assez peu de certitude. Et ce que j'ai un petit peu envie de dire, c'est quoi la suite?
Peu de certitude et surtout, c'est bien la possession tout ça, mais elle sert à rien dans ce cas-là.
Ah bah oui, de toute façon...
Peu de certitude.
Ouais, le coach s'en cachait pas en disant que c'était très stérile et que du coup on avait manqué de justesse et d'accélération dans les derniers mètres et sur le plan offensif. Ouais, c'est pour moi ça fait ça, on peut jouer 90 minutes comme ça et jamais marquer en fait. Donc et en plus du coup si tu manques un peu, enfin tu es très naïf finalement sur et on reparlera peut-être de ce but parce que il y a des positionnements et il y a un positionnement défensif qui est un petit peu bizarroïde, on presse à contre-temps, on se fait piéger etc. Mais non, c'est en tant que supporter, c'est 90 minutes qui sont pénibles en tout cas.
Et ça commence pénible à faire beaucoup de matchs comme ça où ces 90 minutes pas très intéressantes à suivre le FC Lorient. Il est loin le temps du début de saison où on se régalait à regarder les Merlus, victoire ou défaite, peu importe, mais on se régalait. Là, c'est un peu plus compliqué. Ça fait un petit moment, on aura l'occasion de revenir. Une frappe cadrée, tu sais que c'est un petit peu ma stat fétiche ces derniers mois. Là, je dis, on ne frappe plus beaucoup au but, attention, ça devient compliqué. Une frappe cadrée, je me souviens même pas. J'ai une frappe d'Abergel qui finit sur le poteau à la 93e minute. Je ne vois pas une autre frappe cadrée, je ne vois pas un arrêt du gardien toulousain.
Alors la frappe cadrée, j'ai pas envie de dire de bêtises, j'ai un petit trou de mémoire.
Pour être tout à fait transparent, j'ai regardé le match en dilettante à l'aéroport à Porto. Je suis allé voir Boavista Rio Ave ce week-end. Et ben, c'était niveau de football était à chier, mais je me suis beaucoup plus fait plaisir que ce match-là. J'ai tenté de revoir en replay, je me suis endormi pendant la sieste tout à l'heure. Alors ça, c'est pour meubler pendant que Graf nous retrouve.
Ouais, c'est Ibrahim Akone, du coup, à la 19e, à 18e. Bon, bref, ça nous a pas marqué. Non, après, il y a eu beaucoup de frappes, beaucoup de frappes. Je vais me calmer. Quelques frappes bloquées, pas mal aussi hors target, puis surtout, en fait, assez peu de contrôle judicieux, de ballons bien dans la course, etc. Donc, beaucoup d'approximations, énormément d'approximations. Et c'est vrai que quand tu regardes ce match-là et que tu essaies de dire qui a été qui et a sorti la tête de l'eau et qui s'est illustré, bah, la liste est très courte. Après, ça faisait plaisir au moins de revoir Vogo dans les cages, qui a fait une prestation honnête. Et puis après, bah, je pense que c'est ce système qui n'est pas encore huilé. Et ouais, on a encore des difficultés.
Ce que je te propose, c'est d'analyser ce match par plusieurs plans. On commence par le système, justement. Parle-nous un peu de ce système proposé par Régis Lebris, avec, dès le début, Koné titulaire.
Ouais, Koné titulaire, je pense qu'il y avait un plan assez clair. Ça, c'était de profiter des ailes pour essayer d'apporter du danger. C'est clairement ce qui a été fait, puisqu'on a fait 22 centres. Donc on est à peu près sur les meilleurs matchs du FCL en termes de centres tentés. Donc il y avait vraiment cette envie d'apporter du danger par le centre, avec la position en fait, de Lefebvre et de Fèvre qui était un peu particulière, puisque elle est en soutien de Koné, mais souvent assez excentrée. Et du coup, ça permettait d'avoir le piston plus du coup les deux soutiens de l'attaquant, on va dire, en capacité d'exploiter les ailes. C'est ce qui s'est passé. Donc, en gros, on avait une sorte de 3-4-2-1 ou 5-2-2-1 sur le terrain, avec en piston Silva et Yongwa. Et une défense du coup à 3 avec Le Goff, Talbi et Meïté. Donc on avait Makengo à Bergel au milieu, en double pivot, et Koné dans l'axe. Et en fait, sur phase défensive, on se retrouvait en 5-4-1. Clairement, c'est ce qui a été joué du coup de la première minute jusqu'à la 30e minute. Alors, je ne suis pas certain de moi à 100%, mais j'ai eu la sensation qu'à un moment donné, le coach a fait évoluer le dispositif en 4-4-2 avec Lefebvre qui était plus proche d'Ibra et du coup Yongwa qui occupait le couloir gauche, toujours le couloir gauche, mais un cran au-dessus. Du coup, on avait une ligne de 4 avec Silva à droite et Le Goff à gauche et Fèvre qui prenait le côté droit. Ça a joué 15 minutes comme ça sur la fin de la première période, mais par contre on est revenu sur ce système là en deuxième période et du coup les nouveaux entrées à l'heure de jeu ont également exploité le même système. Par contre Le Goff est passé piston et du coup Kathleen est également passé piston. En revanche Kaloulou est passé dans cette défense axiale axe droit, Meite a repris l'axe et Talbi s'est décalé du coup axe gauche dans cette défense à 3. Donc il y a eu pas mal d'ajustements au final, et même devant on a retravaillé le système avec et notamment Innocent qui est rentré à la fin. Donc beaucoup de, pas de, je dirais pas de bricolage, mais beaucoup de changements. Donc je sais pas si ça aide aussi à créer de nombreux automatismes, mais je vous ai trouvé toujours un peu en décalage sur les montées offensives. On a toujours ce problème avec ce système de bien faire monter le piston au bon moment, d'apporter le bon surnombre. Et ce qui est très difficile, je trouve, par rapport à notre manière de jouer en début de saison, c'est qu'il n'y a aucun soutien sur nos attaques. Je me faisais la réflexion à chaque fois, à chaque contre. Je me disais, on joue des 2 contre 4, des 2 contre 5, des 2 contre 6, des 3 contre 8. On n'a jamais le surnom, mais pas la vitesse pour faire la différence. Donc le jeu de transition est vraiment mort aujourd'hui. Hein. Enfin, il n'y en a plus du tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit Lorient avoir la possession. Beaucoup plus qu'avant. Et par contre, aujourd'hui, on ne sait pas l'exploiter. Donc le frein offensif, il est vraiment là. On ne sait pas exploiter cette position. On la garde. Ça nous permet aussi de moins être mis en difficulté et moins concéder d'occasions contre nous. Mais par contre, on s'approche de la surface sans y pénétrer. Je crois qu'il y a 5 passes seulement du coup, au sein de la surface, ce qui est très limite, ce qui est très famélique. Et encore une fois, très peu d'occasions. Je pense que c'est flop 5 aussi en termes de X goals sur cette rencontre. Donc Toulouse l'a pas volé en finale, quand on agrège l'ensemble de...
X goal, c'est 0-5, 0-6.
0-6, je crois, ouais, exactement. Ouais,
donc autant dire rien du tout. Je suis en train de compter les touches de balle dans la surface, je crois qu'il y en a une petite douzaine, si je dis pas de bêtises. Bref, c'est famélique. Tu n'as pas saisi ma perche au vol quand j'ai dit Koné titulaire, ça veut aussi dire Bamba Dieng remplaçant.
Ouais, Bamba Dieng remplaçant et une entrée du coup très transparente. Il avait une action situation. Pour ce, une situation en effet pour se mettre en avant, contrôle raté, alors que le service est plutôt bon, je trouve.
Et surtout, c'est une situation parfaite pour un numéro 9.
Bah c'est ça. Je trouve que il fait le bon appel. Il ouais. a le corps bien positionné, etc. Et puis
la passe est bien mise.
La passe est bien mise et puis le contrôle est, il y a pas de contrôle. Enfin le contrôle est, ouais, est raté. Voilà, enfin c'est ce qu'on demande aussi à un moment donné, un attaquant avec un match où il y a peu d'occases, etc. 25 minutes de jeu, fait un bon contrôle, une frappe enchaînée. Enfin, on t'en voudra même pas s'il y a pas but, mais au moins, enfin, prends ta
oui,
frappe.
T'as pas recruté un petit jeune qui a découlé au niveau et que tu prépares pour le futur. C'est ta recrue star du mercato. Et
qui t'a coûté 10 millions, quoi. Ouais. Faut le dire.
Qui doit porter l'équipe une fois que tu as vendu ta star. Tu avais vendu Mofi, c'est Dieng devait prendre le relais et ça commence à faire un petit moment déjà. Et on voit, à la limite, si on voyait des progrès, on le soulignerait, mais on n'en voit pas. On voit, tu me dis si je me trompe, on voit pas vraiment d'évolution dans son jeu.
On risque d'en voir de moins en moins parce qu'il va avoir moins de temps de jeu. Parce que là, du coup, il se fait barrer. Par Koné. Donc après bon, Koné a pas non plus fait un match transcendant. Il a touché 19 ballons, c'est là encore une fois c'est très peu. Il s'est pas mis dans beaucoup de situations de frappe non plus, donc voilà.
Est-ce que finalement le meilleur match c'est pas celui de Romain Fèvre, que pourtant ouais, nous sommes si. Adeptes on se demandait dans le dernier épisode s'il fallait continuer à le faire jouer. Non pas pour une question de niveau forcément, mais simplement une question de projet. On sait qu'il part en fin d'année. Et finalement, il joue. Et finalement, c'est le meilleur joueur sur le terrain, je pense, dimanche.
Surtout sur la première période, je trouve. Enfin, moi, j'ai vu que lui sur la première période. Un petit peu plus en dedans sur la deuxième. Mais voilà, il arrive à faire jouer ses coéquipiers. Je l'ai trouvé un petit peu moins perso, entre guillemets. À lâcher plus le ballon, etc. Alors il continue à tenter, c'est un peu son jeu aussi, à défier, à dribbler, etc. Mais il a eu beaucoup de situations aussi, de phases, de fautes aussi subies. Pour une fois, ça a été sifflé plusieurs fois, etc. Donc des coups francs aussi à disputer, à jouer aux abords de la surface, et quelques passes plutôt bien distillées. Donc non, j'ai trouvé le match convaincant. Et peut-être aussi dans un rôle qui lui plaît plus, c'est-à-dire un tout petit peu plus proche de l'axe du terrain, un peu plus proche du, de l'attaquant. Donc, ouais, sur la première période, je dirais que c'était, c'était vraiment le joueur en, au-dessus du lot.
Et puis, à la 66e minute, triple changement.
Ouais.
Sortie de Igor Silva, de Koné et de Darlin Yongwa. Retour de Kalulu, tiens, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu Kalulu. Ça aussi, ça fait plaisir. Ça, c'était l'un des seules choses positives de ce week-end. Entrée de Dieng, c'était pas terrible. Et entrée de Kathleen, qui, pour sa première situation gérée, bah, la gère pas et ça fait but.
Ouais, alors sur, cette, sur ce but-là, y a Fèvre qui est au pressing et il fait un geste du bras en demandant les gars remontez d'un cran, etc. Venez presser. Tu vois, alors il y a Kathleen qui est hors champ, du coup, moi j'ai vu la, le match à la télé, qui déboule, qui arrive trop tard sur, sur le mec qui reçoit la passe. Là, il y a une sorte de jeu en triangle. Kathleen, du coup, couvre, enfin, du coup, revient vers son but. Et puis après, bah, y a une situation où le gars dans son dos, il est ni géré par Kalulu, ni géré par Kathleen. Et du coup, bah, ça fait but derrière. Donc, il y a eu un effet de. Je pense qu'il a subi le. La volonté de Fèvre de monter d'un cran, etc. Et il était en. Enfin, il faut vraiment regarder l'action. Mais après, de toute façon, il y a une problématique de marquage.
Après, oui, c'est ça. Voilà, c'est ce que je voulais souligner.
Ce que je veux dire,
c'est
que
le mec, il vient de rentrer. Il est, normalement, il n'est pas fatigué. Hein, il vient de rentrer.
Non, non,
il revient en trottinant et c'est son gars qui marque. Quoi.
Ouais, tu vois qu'il ne regarde pas dans son dos s'il y a un gars déjà. Et en fait, il monte pour redescendre. Enfin, il est à contre-temps, encore une fois. Donc, tu sens qu'il n'est pas bien rentré dans le sujet. Donc, ouais, c'est à la fois ce pressing de Feb désynchronisé avec celui de Kathleen qui permet l'incursion sur la gauche et une action qui se décante. Un Kalulu qui arrive trop tard pour être décisif. Mais avant ça, il y a quand même une énorme percée dans l'axe du terrain où du coup, on se fait balader hein, avant que ça revienne sur le côté gauche. Pour être conclu par un marquage inexistant. Donc, c'est un peu une masterclass défensive. Là, on est passé à côté. Et d'ailleurs, il y a une stat assez intéressante là-dessus. On a été très médiocre sur les tacles sur dribbleur. C'est une stat un peu particulière, mais du coup, avec un ratio de merde. Donc, non, mais ça montre aussi. Et c'est pas une stat qui est anodine, parce que du coup, j'avais déjà constaté ça en début de saison, notamment. Sur notre difficulté à gérer les dribbleurs. Donc voilà, bon bref. Donc il y a beaucoup d'erreurs individuelles sur ce but-là, parce qu'en fait, ça transperce tout l'axe du terrain, ça finit à gauche sur un marquage non réalisé.
Ce triple changement, il intervient à un moment où finalement, on n'est pas si mal que ça. Le retour des vestiaires n'est pas... Alors, attention, hein, c'est pas Brésil 82, mais le retour des vestiaires est quand même... un petit peu sympa, un peu plus sympa, et ce triple changement, il vient un peu perturber la machine. Est-ce que c'est pas une petite erreur de Régis, de coaching?
Je pense qu'on ressort, on fait 5-10 bonnes minutes à la sortie, et puis après, ça se retourne un petit peu, je trouve. Enfin, ils sont sur un début de temps fort, je trouve, enfin, temps fort. En tout cas, ils reprennent un petit peu plus du poil de la bête, je trouve. Donc, non, c'est pas. Je nous ai trouvé à ce moment-là du match moins en verve. Donc, franchement, ouais, on n'a pas maîtrisé.
Il sort les deux pistons. Il sort Darlin et Igor Silva. Darlin Yongwa et Igor Silva. Ouais. Et les buts viennent de ces côtés-là. C'est un coaching suspect. Je trouve.
Bah, c'est les deux entrants qui passent un petit voilà, peu à côté, et Kathleen et Kalulu. Ouais.
Et je pense que tu vois où je veux en venir. J'ai un peu l'impression que le coaching de Régis Le Bris sur ces dernières semaines, pour pas dire ces derniers mois, il est un petit peu compliqué à lire parfois.
Alors, à lire, mais aussi, je trouve qu'il est moins inspiré. C'est-à-dire que du coup, tu vois pas l'idée, puis après, tu vois pas l'effet. C'est deux choses en fait. Tu peux comprendre pourquoi ça a été fait, et bon, parfois ça marche pas. Et c'est souvent là, malheureusement, un peu les deux. Je pense que c'est plus le but de Toulouse qui nous permet d'avoir quelques situations en fin de match parce que Toulouse défend plus que les changements opérés à l'heure de jeu, enfin juste après l'heure de jeu. Et c'est un peu pareil finalement face à Monaco où à 3-0, il te fait rentrer Innocent. Tu vois, enfin, c'est quoi le projet? Ouais.
Et pourtant, à Monaco, sur le même match, j'avais bien aimé son coaching. Je voulais en parler un petit peu plus tard, puisqu'on va analyser aussi le match sous le prisme de est-ce que les joueurs ont quelque chose à foutre encore de cette fin de saison. Vous inquiétez pas, je sais que vous attendez ça. À la mi-temps de Monaco, triple changement, parce que c'est du n'importe quoi sur le terrain. On peut imaginer que dans les vestiaires, il y a eu une petite remise dans l'axe de certaines choses. En tout cas, il y a sanction pour quelques joueurs. Et voilà, on sent qu'ils découvrent aussi la Ligue 1, Régis Le Bris.
Ouais, il découvre, mais je trouve que, enfin, là, je pense qu'il avait tout à fait raison de faire cet électrochoc parce que personne lui a, peut lui en vouloir, enfin, faire rentrer trois joueurs, concrètement, je pense que j'aurais fait pareil à sa place, peut-être pas dans le choix des hommes, peut-être que j'aurais fait autrement, mais concrètement, Innocent, il n'arrive pas à la mi-temps. Il arrive après le troisième but. C'est ça que...
Là, tu es sur Monaco, ouais.
Ouais, je suis sur Monaco. Oui. Du coup, tu as trois remplacements. Tu as Aouchiche, Koné, Yongwa qui rentrent à la mi-temps. Folland met le troisième. Et là, il fait rentrer Bonke Innocent. Donc, soit tu te dis à 3-0, tu es à Monaco. Tu te dis, bon, ça y est, c'est plié. Tu te dis pas que je vais revenir à 3-0. Enfin, je pense pas qu'ils se le disent véritablement. Donc, à ce moment-là, tu fais rentrer Doucouré, Innocent. Je sais pas ce qu'il a derrière la tête. Fais autre chose, sors des choses un petit peu plus. Teste des choses.
Il te rajoute un attaquant devant. Bah non, parce que Doucouré remplace Dieng.
Non, bah oui, exactement. Ouais. Et donc, il fait donc, t'as Ponceau qui sort pour Dieng. Enfin, c'est quoi le projet? Donc, c'est pour ça que je te parlais de remplacement peu inspiré. Je sais pas s'il subit pas plus là, ses choix. Et il est en contre-coup, en fait. Puisque notre maîtrise de première mi-temps, là, du coup, est pas terrible. À chaque fois, du coup, on a l'impression qu'il fait des changements pour faire des changements. Comme si, du coup, il fallait réagir quoi qu'il arrive. Donc, non, je trouve aussi dans les mimiques et dans le non-verbal que tu vois que c'est difficile pour lui. Prise de notes, à se gratter la tête, à être assez peu... Moins de messages aussi, je pense. Plus il s'est un peu renfermé, peut-être un petit peu plus, il communique un peu moins.
Là, tu le sens. Ces conférences de presse, quand il fallait nous expliquer comment gagner, comment il gagnait, comment ça se passait, c'était super intéressant. Là, pour nous expliquer ce qui va pas,
c'est moins spécifique.
Ouais, c'est plus vague. Il a peut-être pas envie de filer des billes à tout le monde, ok. Mais il y a des choses qui sont pas on va quand on regarde le match, on voit des joueurs qui sont pas concernés par le sujet. Tu prends Enzo Lefebvre, son match de dimanche, il est pas bon.
Non, il est pas bon.
C'est pas du Enzo Lefebvre. C'est pas du Enzo Lefebvre qui veut se dépouiller pour finir dans la plus haute place de l'histoire du FCL. Projet qui est terminé d'ailleurs au passage.
Mais c'est son utilisation qui est très différente de tout ce qu'on a connu d'Enzo Lefebvre aussi, tu vois. Enfin, moi c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Enfin, je ne défends pas Enzo Lefebvre.
Non, mais on peut le défendre.
C'est juste qu'aujourd'hui, Enzo Lefebvre, on l'a vu sur les deux à trois dernières saisons, surtout sur les deux dernières, son poste idéal est au cœur du jeu. Sûrement en 8, peut-être en 6, mais beaucoup moins en 10. Est-ce qu'on a vu un match abouti de Lefebvre en 10 cette
saison? Jamais. Voilà. Non. Donc, mais ni cette saison, ni la saison précédente, ni
voilà, c'est pas son poste. Et donc, du coup. On a Berger, les Makengo, il faut les faire jouer et tu vas peut-être. Mais pourquoi pas? Je sais que le 4-1-4-1 a pas forcément donné beaucoup de comment dire d'éléments positifs. Mais enfin, qu'est-ce qui t'empêcherait de mettre Makengo et Lefebvre sur la même ligne en 8, à Berger en 6 pour remettre peut-être un Lefebvre au cœur du débat? Là, je l'ai trouvé, mais enfin. Il a pesé sur rien. Et là, au final, quand tu n'as plus d'agressivité positive du coup, sur le porteur, tu n'as aucun cadrage. Enfin, je trouve notre cadrage de l'adversaire nettement moins bon qu'à l'accoutumée. Enfin, notre pressing, il n'est pas bon. Enfin, il faut se le dire aussi. Sur phase défensive, on n'est pas bon sur pressing. Beaucoup moins qu'avant. Donc, moi, je préférais voir un Ponceau ou un Aouchiche à la limite en soutien d'un attaquant qu'un Lefebvre, aujourd'hui, en tout cas.
Oui, Ponceau fait partie de ces joueurs qui un peu en détente sur cette fin de saison.
Je ne sais pas si c'est de la détente, mais en tout cas,
il est en... On a cité Enzo parce que c'est quand même un des leaders de l'équipe. Et forcément, c'est par lui qu'on commence. Mais on pourrait citer Enzo, Ponceau, décidément. On pourrait citer Ponceau, on pourrait citer Darlin, Yongwa, qui fait... C'est un joueur qui a tout à prouver hein, dans les Lillois, il ne faut pas oublier. Je ne suis pas sûr qu'il ait prouvé grand-chose sur ses récentes apparitions. On peut en citer d'autres. Ça commence à être énervant, on va dire.
Bah, tu vois aussi les limites de l'effectif. Hein. Yongwa, bah, c'est pas un joueur, comme tu l'as dit, qui a prouvé en Ligue 1. Kathleen, qui n'a pas encore prouvé en Ligue 1. Silva, il s'est fait bouffer par Mendes, du coup, dans ce rôle-là. Il a très peu de minutes jouées au FCL depuis son arrivée. Donc, tu as Makengo qui vient d'arriver. Enfin, c'est... Encore une fois, je trouve que c'est... Je sais pas, tu vois, ça là-dessus, c'est difficile, tu vois. J'attaque pas le résultat, parce que je pense que j'attaque plus la manière.
Tu vas pas gagner 38 matchs dans la saison, voilà. Ça, on s'en fout, non.
Moi, c'est la manière, et ouais. c'est un, quand je disais en début de saison que je voyais pour la première fois depuis très longtemps se dessiner un projet de jeu, où je voyais exactement ce que le coach voulait faire, là où il progressait, là où il avait envie de se développer. Donc on a joué en transition, bloc très bas, puis le bloc est un peu monté, on a continué à exploiter la transition, puis commencé à avoir du jeu de possession, alterner les deux, c'est là où peut-être on était le plus dangereux. Puis du coup, à un moment donné, novembre, etc., plusieurs raisons à cette descente, je pense qu'on reviendra sur ces séquences-là en fin de saison, sur un bilan
oui,
global.
Oui, parce qu'on dit c'est le mercato, le tournant, le problème commence avant la Coupe du Monde.
Oui, et ça, Loïc Ferry, c'est un petit peu protégé de son mercato en disant que dès novembre, c'était un peu moins bon. Il a pas tort. Il a pas tort, mais
le mercato a pas aidé.
Après, je rappelle juste qu'entre novembre et décembre, il y avait une Coupe du Monde, donc le FC Lorient n'a pas joué. Mais
avant la Coupe du Monde, on n'est plus sur le.
Non, on n'est plus sur la. Non, après, parce qu'il y a certaines indisponibilités aussi, mais bon, bref. Donc, moi, mon propos, c'est plus de se dire que dans le résultat, à la limite, c'est pas grave, mais plus, ouais, c'est le contenu aujourd'hui qui redevient difficile à regarder, et je ne trouve plus cette colonne vertébrale du projet. Donc là, je ne sais pas ce qu'il a envie de faire. Est-ce que il se dit, de toute manière, le projet de l'année prochaine va être tellement différent, puisqu'en fait, on va perdre beaucoup de joueurs. Donc en fait, je bricole et je fais ce que je peux. Mais j'ai un peu l'impression que c'est ça, cette séquence, et je fais avec les moyens du bord. Et je ne peux pas reconstruire sur quelque chose qui va être pérenne. C'est-à-dire, l'année prochaine, de toute manière, je prépare même pas l'année prochaine, là. Parce qu'en fait, je ne fais même pas jouer des joueurs qui
sont... On se demandait ça dans le dernier épisode de la Tavarne. Est-ce qu'on est en train de préparer la saison prochaine ? Le problème, c'est que là...
Bah, tu fais pas jouer Dieng. Tu fais pas jouer les petits jeunes.
Mais Dieng, quand tu fais jouer, il est pas bon. Il faut dire les choses. Dieng n'est pas bon, là.
Est-ce que tu es jusque boutiste ou pas? C'est-à-dire, est-ce que tu fais jouer Dieng coûte que coûte pour te dire de toute manière, je vais pas le vendre cet été puisque je viens de l'acheter et il va falloir le développer? Sauf si tu te dis, bah, Ibrahima Koné, est-ce qu'il est là l'année prochaine? J'en sais rien, mais c'est peut-être pas si sûr que ça. Donc concrètement, tu travailles pas pour l'année prochaine si tu benches un Dieng et que du coup tu fais évoluer un Koné. Pareil, en soutien de l'attaquant, tu mets un Lefebvre. Bon, c'est sûr qu'il faut continuer à le faire jouer, etc. Mais tu le fais pas jouer à la bonne position. Pour faire quoi? Pour faire jouer deux pistons que sont Silva, que tu vas peut-être pas conserver, ou en tout cas pas dans un rôle premier, et un Yongwa qui, du coup, je pense, viendra pas supplanter ce qu'il faut reconstruire sur l'aile gauche. Donc finalement, tu vois, tu donnes du temps de jeu et tu construis un système, etc., qui est transitoire et qui va durer quoi? 4 matchs? 6 matchs? Tu vois, c'est un projet court terme, là. Donc, et j'en viens à la fin de mon raisonnement, qui est, quand j'entends Lebris dire qu'on continue à progresser, etc., oui, mais pourquoi? Pourquoi faire avec ces joueurs, pour bien finir la saison, avec des idées de jeu pour l'année prochaine? Là, il faut m'expliquer.
Bien finir la saison, moi, je veux bien, mais on a parlé d'Europe. Et quand tu vois que là où on est, comment on joue, on est à 11 points de l'Europe, ça veut dire qu'il y a quand même largement de la place pour être beaucoup plus haut que ça au classement. Lyon est revenu à 6 points de la Coupe d'Europe. Attention, ils sont pas loin. D'accord. Donc, on l'a un peu saccagé. Le mercato a pas aidé. T'as pas Mofi, t'as plus Dango. C'est compliqué d'aller accrocher l'Europe. Mais après, on a dit, faut faire le meilleur résultat de l'histoire du club, etc. Donc, faut faire 6e ou égaliser 7e. Maintenant, t'es à 41. T'es à 9 points de la 7e place. Donc, la 7e place, c'est fini.
Ah mais bien sûr que c'est fini, mais t'es même à te dire, est-ce que tu vas pas finir plus bas?
Tu vas finir plus bas, et attention, on nous a dit, quand je dis on nous a dit, c'est pas dans la presse, on nous a dit en direct, hors top 10, ce serait un échec.
Bien sûr.
Hors top 10, ce serait un échec. Là, je ne vois pas, à part peut-être Nice qui est démobilisé, enfin remarque, mais ça vient derrière, etc. Je pense que ça va être compliqué de finir top 10.
Ça va être plus compliqué qu'on ne pensait il y a 6 ou 7 matchs. Ça,
donc tu es en train de saccager une saison qui, vu le rythme des potentiels européens, parce que si encore la 5e place était à 20 points, tu nous... bon.
15. Mais à ce moment-là, tu saccages une fin de saison. Admettons, tu le dis, mais fais jouer les joueurs qui seront là l'année prochaine, tu vois. Ou en tout cas, commence à préconstruire quelque chose. Mais je trouve que c'est pas le cas. C'est absolument pas le cas. Enfin, ou alors je le vois mal. Ou alors il faut me l'expliquer, mais je le vois pas.
Du coup, Raph, la question c'est, est-ce que c'est ça qu'on attend jusqu'à la fin de la saison? C'est ça qui nous attend, pardon, jusqu'à la fin de la saison. Des matchs en dilettante pour certains joueurs qui ont déjà la tête ailleurs. On pense à des joueurs qui vont probablement partir. Hein. Enzo, il va partir. D'ailleurs, Enzo, finalement, il y avait peut-être une offre. Ah.
Ouais, alors du coup, Ferry, du coup, qui a lâché quelques petits éléments à la mi-temps des micros d'Amazon Prime. Il n'avait pas envie de parler de Bill Follet, en tout cas. Il a jeté ça aux oubliettes. Il était content, en tout cas, du moustoir, des 7 rencontres disputées au moustoir à guichet fermé. En tout cas, il est revenu sur ça.
C'est bien les matchs à guichet fermé, mais c'est parce que tu vends des places pour...
En pack. Ouais.
Pour Marseille, tu vends des places en pack, machin, les gens ne sont pas toujours là. Bah déjà, allez. C'était pas à guichet fermé ce week-end, mon père n'y était pas. Il a donné l'idée. On nous ment.
Non, c'est vrai que c'était un petit peu clairsonné, mais bon. Après, bon, les places sont vendues, elles sont vendues. Hein, mais, il est revenu un petit peu sur la chronologie de la saison. Qui avait toujours des objectifs, etc. Et en effet, il est revenu sur Le Fay, puisque du coup, il a été interrogé sur les départs, et notamment de Le Fay, puisqu'il l'a annoncé dans la presse, Le Fay. Loïc Ferry fermait aucune porte. Hein. Il dit, nous, on n'a pas fermé le dossier. On pourrait continuer à travailler sur la prolongation. On pourrait aussi le vendre. Et on pourrait aussi lui dire qu'il a un contrat honoré jusqu'à la fin. Donc en tout cas, il y avait ces trois options-là. En tout cas, c'est ce qu'il a pu exprimer au micro d'Amazon. Donc ça reste assez évasif. Mais concrètement, il y a un autre élément qui était un peu, je pense, peut-être difficile à entendre pour certains supporters, puisqu'il est revenu sur le fait qu'il n'y avait pas forcément besoin de faire deux ventes cet hiver.
Donc, deux ventes de 1 et 2 ou de faire une vente.
Il n'y avait pas besoin de faire une vente supplémentaire, c'est-à-dire voilà. de vendre Mofi.
Mais ça, on le savait.
Alors, ça, on le savait. Après, il faut aussi dire que...
C'était très clair. C'est que le FC Lorient ne voulait pas vendre Terem Mofi. Terem Mofi voulait partir et Lorient a dit soit c'est 30 millions, c'est-à-dire un chiffre qu'il pensait que Nice ne mettrait pas, ou un chiffre qui serait impossible à refuser pour un club de la taille du FC Lorient. Voilà. Et à 30 millions, il part. Ben, ils ont mis 30 millions, il est parti. Mais il n'y avait pas un besoin financier urgent de vendre. Mais...
Et d'ailleurs, dans la rhétorique, du coup, dans le discours, là, c'est regarder quel club de Ligue 1 a mis plus de 20 millions cet hiver.
Ah oui, oui. Non, mais c'est je vais prendre un exemple. Tu n'as pas besoin de vendre ta voiture. On te propose 500 000 balles pour ta voiture, tu la vends. Tu vois ce que... Non, mais...
Le dragster, c'est un dragster, voilà, c'est pas ça. Une voiture.
C'est un peu la même logique, oui. Enfin, moi, je veux bien qu'on crie au scandale pour ça, mais et le FC Lorient n'est pas en position de refuser 30 millions.
De toute façon,
c'est déjà beau qu'ils aient refusé 25, hein, attention.
Tu as quand même un petit déficit structurel qui t'oblige à vendre des joueurs à Lorient.
Oui, mais celui-là, il était comblé par Dango, par Armand, il ne faut pas oublier. On a vendu Armand début d'année, ouais. Alors on aurait peut-être pu le vendre plus cher, du coup, à la réflexion, mais on l'a vendu. Et la réalité de août, septembre, c'est pas la même qu'en janvier. Faut pas oublier non plus qu'il y a Mediapro hein, derrière tout ça qui est passé là.
Ah, c'est ça.
Faut oublier d'où
c'est
on vient, ça. Le Covid, Mediapro. Donc voilà. Après, oui, il a probablement raison qu'on dit qu'on n'avait pas besoin. C'est-à-dire que Lorient n'avait pas besoin de 30 millions pour survivre. Mais tu peux pas refuser 30 millions d'euros quand t'es Lorient. Faut être
réaliste, les gars. Non, c'est clair. Non, mais ça, on est tous d'accord. Enfin, l'offre de Mofi, elle est. Tu peux pas la refuser.
Oui. Et c'est comme si demain, ils mettent 30 millions pour. Pour Vogo, bah, il part, hein. J'invente, personne ne mettra 30 millions sur un gardien, mais on se comprend. Donc je disais, est-ce que c'est ça qui nous attend jusqu'à la fin de saison? Des joueurs un peu dilettants, Enzo Le Fénon, Laurent Abergel qui sera probablement plus là l'année prochaine.
Ouais, c'est clair. Ouais, oui, c'est
voilà. Qui est-ce qui devrait partir encore? Talbi, on le dit à chaque épisode, il partira probablement, on espère qu'il reste. Il a encore beaucoup d'années de contrat au FC Lorient, donc on espère qu'il reste. 4 ans. Qui est-ce qui pourrait partir comme ça là, de tête?
Après, c'est plus les joueurs qui sont en manque de temps de jeu et qui, ouais. Du coup...
Un connaît, tu vois,
à un moment donné, tu vois, tu prends pas la place de numéro 1. Ok, t'as des minutes et t'es super sub, mais à un moment donné, il va peut-être envie de changer.
Il y en a deux qui vont pas partir, c'est Vito et Vogo.
Ouais, puisque prolongé, du coup, quasiment tous les deux en même temps.
J'aime beaucoup cette stabilité. Sur le poste de gardien, c'est une bonne nouvelle. Vito qui finalement a démontré qu'il était un excellent numéro 2 et qu'il pouvait dépanner sans aucun problème. Ça sonne peut-être aussi le glas de Teddy Bertouche au FC Lorient.
Mais qui sera numéro 3 du coup?
Alors il y a une rumeur, j'entends un truc d'un joueur anglais qui signerait, un gardien anglais.
Ok, j'ai pas l'info donc je peux pas t'aider. Mais
voilà. Un gardien anglais qui signera en 3, mais...
On verra bien de toute façon. Mais là où t'as raison, c'est que du coup, en ayant ces deux goal gardiens du coup, pour l'année prochaine, le sujet est clos. Quoi. Enfin, en tout cas... Donc, il reste
du coup, je reviens à ma question.
Talbi, Meite, tu te dis que ta défense centrale, sauf vente de Talbi, je pense qu'elle est là pour l'année prochaine. Par contre, t'as tes couloirs. Quoi. C'est surtout le côté gauche.
Goff a été prolongé.
Oui, mais ça ne veut pas forcément dire que concurrence... voilà. Donc,
Parce que Darlin Yongwa est venu pour le concurrencer. Bon, pour l'instant, c'est pas ça.
Non. Non, là, il faut... De toute façon, il y a tellement de chantiers, là, qui... Ouais. C'est quasiment deux joueurs par... Enfin, pas deux joueurs par ligne, parce que derrière, il n'y aura pas deux joueurs, mais au moins un. Mais c'est quasiment deux joueurs par ligne.
Et puis, la question du numéro 9 va se poser, de toute façon. Mais ça, on aura l'occasion d'en rediscuter un peu plus tard. Du coup, je reviens à ma question, parce qu'on digresse beaucoup.
C'est
le format trash talk, hein. C'est normal qu'on digresse. Qu'est-ce qui nous attend pour la fin de saison, là? Qu'est-ce qui nous attend? Moi, je suis prêt à mettre une pièce sur un match très très correct contre le PSG, parce que c'est le PSG, parce que c'est au Parc, parce que les mecs vont jouer contre Messi et Mbappé, qui vont avoir des caméras, ils vont être vus partout, machin. Donc là, ça va faire un bon match. Puis derrière.
Ouais, après, ça peut faire 4-0 aussi, mais du coup, c'est.
Oui, mais encore une fois, le résultat, tu vois, mais sur l'implication dans le match, on verra du mieux, forcément, parce que c'est contre le PSG. Et ça m'énerve. Fin de saison, qu'est-ce qu'on attend, quoi?
La problématique qu'on risque d'avoir face au PSG, c'est qu'on n'a pas cette capacité à les surprendre par ce fameux jeu de transition. Donc en fait, on va subir, et même quand on aura les ressorties, on ne va rien faire. Donc ça peut être très très pénible aussi. Ça peut être très long. Après, il faut voir. Peut-être que le Brice va trouver quelque chose, etc. Mais moi, je suis vraiment très embêté du fait qu'on a construit le succès d'une saison sur ce jeu de transition pendant une quinzaine de matchs. Et du coup, en fait, cette dépendance, elle était vraiment ancrée sur deux joueurs, et la capacité d'alimenter via de bons passeurs type Lefebvre et compagnie, en transition. Désolé, je répète souvent ce point-là, mais je ne vois pas comment aujourd'hui Lorient peut être dangereux avec ce qu'a démontré l'effectif jusqu'à présent dans ce nouveau format de jeu. Je nous trouve, mais d'une timidité sans nom, quoi. Enfin, tu fais peur à qui aujourd'hui, en fait?
Personne. Regarde, on est 17e au classement depuis le retour de la trêve. Donc, tu fais peur à personne. On peut donc se réjouir, peut-être, d'avoir construit sur 15 journées, d'avoir acquis le maintien, en fait, sur ces 15 journées. Quand tu vois la lutte pour le maintien en bas de tableau...
Ah, c'est clair.
Je suis plutôt... Mais... Parce qu'il faut aussi se rappeler d'où on vient, etc.
Mais je pense qu'on aurait tous signé pour ça
sûr.
Début de saison. Ça faut
en
arrêter,
fait, là, on est énervé parce que c'est frustrant le début de saison. Mais je suis assez content de ne pas recevoir Brest en étant à la lutte pour le maintien avec eux dans deux semaines. Là.
Surtout avec cette dynamique vraiment pas terrible. Donc, Donc je ne sais pas, peut-être que du coup, le Brise pense que il y a moyen de faire quelque chose de cette équipe avec ce jeu de possession. Peut-être qu'il y croit dur comme fer. Peut-être qu'à l'entraînement, il voit des choses qu'on ne voit pas. Il voit des joueurs progresser.
C'est même sûr qu'il voit des choses qu'on ne voit pas à l'entraînement.
Non, mais évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, on ne les voit pas concrètement. Voit pas concrètement en match. Tu vois. Enfin, aujourd'hui, quand je t'ai dit en intro, ouais, il y a eu 22 centres, pardon, pour le FC Lorient. C'était une consigne. C'est quoi l'effet de cette stratégie de centrer, etc. Ça n'a Il n'y a eu aucune production via du centre. Zéro. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a des idées, mais dans l'exécution derrière, il y a très peu d'applications concrètes et très peu d'efficacité. Donc, moi, ce qui me fait peur,
c'est que c'est un attaquant d'un mètre 90, Ibra Koné, qui n'a pas mis un but de la tête de sa carrière. Quoi.
Mais
tu peux faire 22 centres hein, si tu n'as pas un mec qui sait jouer de la tête. Pourtant, il a le gabarit pour aller emmerder les gars.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quel est le type de situation ou le type de construction d'attaque où on se dit qu'on met en difficulté notre adversaire?
Percussion de Fèvre, même pas. Contre-attaque de Stéphane Deyra, non plus.
Non mais franchement.
Ouais, c'est compliqué. Donc prochain match c'est le PSG, voilà. J'allais te dire, est-ce qu'on se fait un petit 11 contre le PSG, mais...
Allez, si. Allez, moi, je serai en parkage, donc du coup, je peux pas mentir. Je vais voir ce match et je serai content d'y être.
Bah tiens, tu réponds à la question que j'avais posée. D'ailleurs, c'est avant qu'on passe au 11 contre le PSG. Pourquoi est-ce qu'on perdrait un dimanche après-midi? C'est 17h, ça nique l'après-midi. Là. Pourquoi on perdrait un dimanche après-midi à regarder ce match-là? Alors, est-ce que tu as les bonnes raisons? Toi, tu seras en parkage.
On perd en ce moment le dimanche, mais du coup, pourquoi on perdrait notre dimanche, tu veux dire?
Mais bien sûr, pourquoi est-ce qu'on perdrait du temps à regarder ça, quoi? Toi, parce que tu seras en parkage.
Ah, pour Paris, après...
Oui, bien sûr, non, mais ouais. Voilà. Donc, tu seras en parkage contre Paris. Moi, je me pose la question. Je pense que tu peux te faire balader, quand même.
Ouais.
Après, on a un podcast à animer, donc ce serait plutôt bien de voir les matchs.
Bah, nous, on est un peu obligés de voir les matchs, quand même.
Ouais, c'est ça.
Ça devient un petit peu ridicule.
Et on n'est pas payé pour. Hein.
Non, on n'est pas payé pour. D'ailleurs, on cherche toujours un sponsor hein, pour les rares personnes qui nous écoutent.
Le trésorier de l'association.
Ouais, c'est ça. Concrètement, parce que j'ai encore un espoir de voir quelque chose dans la trousse, dans la boîte à outils de Régis Lebrize. Je lui fais confiance dans le fait de construire quelque chose, puisqu'il l'a démontré, il l'a prouvé sur ce début de saison. Ça me choquerait qu'il n'ait pas d'idée.
Oui, non, alors pour être très clair, je parle en mon nom et je pense au nom du tien et du podcast. On a toujours confiance en Régis. Hein.
Ah oui, bien sûr. Oui, sûr.
Pierrot, il dit ouais, que... je sais pas, mais les autres, nous, on a.
À part Pierrot, qui du coup a plutôt tendance à tirer et à poser des questions après, on a encore confiance, mais c'est sûr que du coup, la confiance, elle s'est créée en début de saison. Mais elle doit aussi être travaillée, se conserver, et c'est vrai qu'elle commence à s'effriter. Et d'ailleurs, en fait, on a souvent mis en avant le discours des joueurs, et je me souviens surtout du propos de Vogo après la réception de Lyon, qui avait dit « Régis Lebrize a vu des choses face à Lyon, on les a exploitées, c'est grâce au coach si on a gagné ».
Oui, non, mais bien sûr.
C'est très loin, ça, hein, genre, ce genre de propos. Je ne sais pas d'ailleurs si aujourd'hui, compte tenu de cette fin de saison, les nombreux départs, la vente des joueurs comme Mofi et Ouattara, si du coup le vestiaire vit aussi bien qu'au début de saison.
Tu vois, forcément, les résultats doivent impacter. Mais là, on parlerait sans vraiment savoir. On le fait souvent.
Alors, à Bergel, en tout cas, dans les couloirs du moustoir, encore une fois au micro d'Amazon, répondait par la négative aux propos de Pierrot qui disait que le FC Lorient était en roue libre. Il disait que Lorient n'était pas en roue libre.
Il sait bien de le dire, mais c'est quand même l'impression que ça donne. Je veux bien croire ce que nous dit Lolo à Bergel au micro, mais le fait est que...
Ouais. Tu vois cas, bon. Non, mais il y a certains.
Tellement en relève que sur la flèche wallonne, tu pouvais faire top 10, quoi. Faut dire les choses. Ok.
Donc, non, mais c'est clair. Voilà. Et puis en plus, il y a quand même quelques stats et même juste avoir des yeux, quoi, pour le voir un petit peu, quand même. Donc, bon.
Allez, ouais. Le 11 pour PSG, Vogo dans les buts.
Vogo dans les buts, et je pense que je me mets en mode premier match de la saison. Rennes-Lorient. 4-4-2. Du coup, à plat en phase défensive. Je repartirai en 4-4-2. Et bizarrement, je vais me contredire. Alors non, je vais pas me contredire. Je vais utiliser une paire au milieu. Abergel le fait. Devant, Koné, Ponceau. Donc avec Ponceau en 10, mais phase en 4-4-2. Fèvre à droite, qui peut repiquer dans l'axe un petit peu. Et à gauche, c'est là où ça m'embête. C'est que du coup, j'ai pas le Brise. Du coup, je suis obligé de faire jouer Kathleen. Arrière-gauche, du coup, le Goff, Talbi, Meïté et Kaloulou à droite. Voilà, en gros. Donc, je bench Makengo, en fait.
Mais par un souci tactique, pas par un souci...
Ouais.
Makengo qui fait pas un très mauvais match contre Toulouse, sauf erreur de ma part. Il est au niveau des autres. Ouais, bon, on oublie. Laporte qui sera toujours pas disponible contre le PSG. Laporte qui devrait revenir après Brest. Brest,
peut-être.
Non.
Peut-être.
Il nous a dit que c'était juste. Ouais, voilà. C'était juste. Donc, ce sera peut-être Montpellier. On espère. T'as lui, Meïté. Kaloulou.
Ouais, Kaloulou. Ouais, Kaloulou titulaire. Donc il y a soit ça, soit du coup 4-1-4-1, et là à ce moment-là tu sors par exemple un Ponceau et tu mets par contre le fait Makengo avec Abergel en 6, tu vois, voilà. Donc c'est deux possibilités.
Enfin, en face, c'est pas non plus le PSG, c'est pas la meilleure équipe du PSG, donc
Peut-être qu'ils vont faire tourner un petit peu, non?
J'en sais rien. Ouais, et il y a Etiquité qui leur coûte 400 000 par mois, il serait bien de le faire jouer un peu. Un petit prono?
Prono, 2Z.
Ouais, j'allais dire 3-0 moi.
Ouais.
3-0, histoire de bien nous enterrer avant le derby et que les mecs soient peut-être un peu motivés avant le derby, parce que ça m'inquiète un peu ça, cette histoire recevoir Brest. Brest, ils viennent, ils jouent leur vie, quoi. Eux ils jouent leur vie, c'est un derby, toi t'es à moitié en claquette.
En tout cas, apparemment le parcage orientais sera complet.
Le parcage orientais
Le parcage orientais au parc sera complet,
d'accord.
Du coup, il a été grossi par rapport aux précédentes rencontres, donc le parcage sera dimensionné pour 1000 personnes apparemment.
C'est quand même une des grosses satisfactions de cette saison. On aura le temps, on fera un grand bilan de la saison, probablement sur Twitch en direct d'ailleurs, en fin de saison. C'est une des grosses satisfactions, c'est évidemment l'affluence au stade, l'ambiance au stade. Il y a quand même des belles choses à raconter, et on espère pouvoir en parler bientôt avec quelqu'un.
Eh oui, avec quelqu'un. C'est en train de
on
se
vous tiendra au courant. Voilà pour ce qu'on pouvait dire, sur ce PSG FC Lorient. Oui, on va pas se demander si on peut contenir Messi ou Mbappé ou machin. On s'en fout, on verra bien. J'ai quelques questions des auditeurs. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Excuse-moi. Est-ce qu'on n'aurait pas affaire à la meilleure demi-saison du FC Lorient en Ligue 1, en parlant de la première partie, mais de la pire du FC Lorient en Ligue 1, en parlant de la deuxième partie?
Bah, peut-être pas la pire.
Ouais, non.
Il y a eu des séquences, franchement, sous Pélissier, où c'était catastrophique. Enfin,
et puis, on peut retourner encore un peu en arrière.
Non, je pense que du coup, notre troisième arrivée en Ligue 1 est plutôt OK. De 2006 à 2012, c'est honnête. Après, il y a plus une descente entre 2012 et 2016 sur la qualité et sur le fil rouge, sur le projet de jeu, etc. Mais là, les deux années de Pélissier, il y a vraiment eu des gros trous, quoi. Faut être honnête.
On nous parle du niveau physique des joueurs, disons que les joueurs ont l'air d'être cramés. Est-ce que c'est quelque chose que tu observes? Et on souligne, c'est Chef56 qui nous dit que le préparateur physique, c'est le même depuis un moment. Les entraîneurs passent, lui, il reste. Est-ce que c'est un dossier qu'il faut ouvrir, tu penses?
Dossier qu'il faut ouvrir, je ne sais pas, parce que je n'ai pas assez d'informations à ce niveau-là. Je ne vais pas casser du sucre sur des personnes et sur des professionnels. Hein. En revanche, du coup, C'est sûr qu'on voit moins de jus. Je ne sais pas si c'est psychologique ou si c'est physique, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que je trouve que le pressing sur Porter est... Et je reprendrai un mot de Régis Lebrise, est pas très énergétique. Je trouve que qu'on manque de... On voit plus les chiens de la casse, en fait, qui courent après le ballon de manière super synchronisée, à la perte, etc. Regardez un match, les 5 premiers matchs, vous regardez 10 minutes, juste 10 minutes, vous regardez le bloc en place, il est plus bas, certes, mais par contre, ça coulisse, ça agresse le porteur, ça vient gratter un ballon, etc. Là,
Ouais,
on fait des fautes, on arrive en retard.
est-ce que c'est pas plutôt un problème d'envie que
Peut-être.
physique?
Ouais. Moi, je trouve qu'il y a une part d'envie, en tout cas.
Ouais.
Je pense qu'il y a à la fois un système tactique qui, du coup, nous fait jouer diamétralement, enfin, vraiment de manière très différente de ce qu'on a eu l'habitude d'avoir. Et après, il y a peut-être, ouais, une... À un moment donné, c'est aussi le cerveau qui te fait avancer, quoi.
Qu'est-ce qu'on nous demande? Est-ce que c'était le pire match de la saison? Jojo Fofo, bon, on a déjà répondu, on se pose la question un peu tous les week-ends, donc on est un petit peu négatif en ce moment, mais bon, on nous donne des raisons.
On échafaud.
Sam Lebrise nous demande si Dieng égale Garbic ou c'est encore un petit peu tôt pour se prononcer. Je sais que tu vas l'aimer cette question.
Ah, je l'aime bien. Alors, c'est quoi, d'un point de vue sportif ou d'un point de vue financier?
Dieng égale Garbic, point d'interrogation. Ou c'est encore un petit peu tôt?
C'est encore un petit peu tôt. Pourquoi c'est
Ah
encore un
oui,
petit
bah
peu tôt?
oui.
Parce que la cote de Dieng n'a pas encore eu le temps de trop descendre. Mais elle va continuer à descendre. Donc je vous ferai un petit top quand la cote de Dieng sera aussi basse que celle d'Adrian au moment où je parlais d'accident industriel. Parce que ça risque... Enfin, en gros, ils ont à peu près la même valeur à l'achat. Et si on bench un Dieng et qu'on ne le retrouve pas la saison prochaine en fer de lance de l'attaque lorientaise, bah, il va se retrouver progressivement à une valorisation qui va s'approcher des 4, 3 millions et puis 10, quoi. Donc, et là, on s'approchera de l'accident industriel, jurisprudence, Adrian Garbitsch.
Question de Allo Mato. Quid d'Eli Kroupi Junior? Je pense qu'il parle d'Eli Kroupi Junior,
Oui,
pas de son père. Quid? Pourquoi ne pas le faire jouer vu que j'imagine c'est la suite de sa question, vu que de toute façon on prépare la saison prochaine.
Moi, je pense que si Dieng est bench comme ça et qu'à un moment donné, on se dit aussi qu'on n'a plus forcément envie de le challenger, en tout cas, je pense que ça peut être pas mal de donner quelques minutes.
Il
Une
a que 16 ans.
titularisation, oui, non, mais une titularisation me paraît vraiment disproportionnée. Mais peut-être, tu vois, quelques minutes. Quelques
Il était
minutes.
en groupe contre
Il a fait deux ou trois groupes,
Monaco?
je peux me tromper, mais il a fait deux ou trois groupes.
Pourquoi
Pourquoi
pas?
pas, hein? Pourquoi pas? Mais du coup, oui, c'est encore très jeune, quoi. Enfin, c'est encore très jeune.
Aurel Sam nous dit que Toulouse était venu en vacances en préparation pour la finale de la Coupe de France. Du coup, c'est un bon match pour eux. Il était content, Aurel Sam, qui visiblement est supporter toulousain. Voilà.
Bah, j'ai envie de dire oui. Enfin, en gros, ils ont pas vu une équipe en face qui était capable de faire autre chose que d'avoir le ballon sans rien proposer devant. Donc ils ont eu deux, trois occasions. On a concédé quatre tirs cadrés, ce qui n'est pas énorme, hein. Mais bon, on s'en prend quand même, tu vois. Donc Toulouse a été opportuniste, ils ont saisi les quelques petits coups qu'ils avaient, et puis ça fait mouche parce qu'on n'a pas su se replacer et qu'on fait on fait plusieurs erreurs individuelles sur une seule et même action. Voilà. T'es puni.
Voilà pour les questions cette semaine. Il y a même des partisans toulousains qui viennent nous poser des questions. C'est magnifique. La taverne s'exporte. J'ai un petit quiz pour toi.
Allez.
Mais je me demande si je n'avais pas déjà posé la question, donc vous me le direz dans les commentaires. Parmi les nationalités de joueurs qui ont évolué au FC Lorient,
Ah si, je crois que tu l'avais faite. Mais bon,
hors
vas-y, je te
français,
prends.
hors français, le top
Ah si,
5
si.
des... Tu l'avais déjà fait?
Ouais, tu l'avais déjà fait. Si,
Bah
si.
vas-y du coup alors. Top 5.
Top 5, je pense qu'on doit avoir Sénégal dans le top 5.
On a le Sénégal, en effet. Qui est troisième.
Troisième.
C'est cinq pays africains.
On doit avoir l'Algérie, évidemment.
L'Algérie en 1 avec 15 ouais. joueurs.
Alors après, est-ce que...
Descendre de flics chez toi, Raphaël ?
Ah, non, non, non.
D'accord.
Ça va, j'ai rien à me reprocher pour l'instant. Je pense pas que Tunisie et que Maroc non. soient bien non, représentés.
Non, 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 non.
Et je dirais Cameroun ?
Pas du tout.
Mali ?
Non plus. En deux, on avait
Côte d'Ivoire.
Ouais, Côte d'Ivoire. Très oui. bien. Puis le Gabon et la Guinée. Du coup, ah oui. en un, c'était oui. En un, c'était l'Algérie.
Ouais, bon, ça c'est le
leur normal, ben, par
rapport. Ouais. Mais de très loin. En plus.
Joueurs, oui, 15 joueurs algériens, il n'y en a que 7 ou 8. J'ai plus le chiffre. Pour la Côte d'Ivoire, je l'ai pas noté en fait.
Okay.
Voilà. Combien de joueurs algériens tu peux me noter, tu me citer sur les 15?
Alors, on a Ziani.
Bien sûr.
On a Saïfi.
Bien entendu.
On a Mansouri, Walid Mesloub. On a du coup, en défense centrale, on en a eu un. Medjani.
Ouais.
On a... j'en oublie là, quelques-uns.
Medjani était plutôt milieu.
Ouais, il a joué les deux. Hein. Défense centrale et 6 aussi, ouais.
Ok.
Le comment il s'appelle, Mostefa,
ouais, Mehdi Mostefa.
On a eu quoi d'autre?
Mehdi Mostefa, un des derniers Algériens à avoir joué au FC Lorient. Mesloub est le dernier Algérien à avoir joué au FC Lorient.
Ouais, j'en oublie encore, hein.
Ouais, t'oublies un attaquant de légende. Un attaquant de légende, il y a deux attaquants, mais t'en oublies un de légende.
Qui commence par un B.
Oui.
Bouafir.
Oui. Sinon, il y avait un autre attaquant, mais alors là, ça remonte, hein, c'est dans les années 60.
Ah, j'ai pas là.
Non, mais moi non plus, on va pas se mentir. Kenan Mahi, dans les années 80, milieu de terrain, Jamel Trem. Oh, c'est pas facile ça. Jamel Tremkani.
Ouais, bah, on le remercie.
Il a fait 2 ans. Il venait de Sochaux. C'est en 99-2000. Malek Ait Alia qui a disparu de ma mémoire, je vais pas vous mentir.
Clairement, j'ai pas.
Milieu de terrain, Moussa Saïb, c'est au début des années 2000.
Ouais.
Karmel Jani, tu l'as dit. Kamel Larbi.
Ah oui, Kamel Larbi, ouais.
Ouais, mais il a pas fait très longtemps au FC Lorient.
Non, non, non.
Très peu de temps.
Ça n'a pas été incroyable.
Un certain en 2006, Jamel Mesba. Alors, je me demande même s'il a joué en fait. Je me demande s'il n'avait pas été prêté 6 mois, tu vois, un truc comme ça. Parce que vraiment, c'est un nom qui ne m'évoque absolument rien, dites-nous. Et puis après, Rafik Saifi, Yazid Mansouri, Rafik Bouderbal, je
sais pas si ouais. je l'ai, mais il n'est pas revenu comme ça. Là. Ouais.
Ok. Et puis surtout, Mehdi Mostefa. Et donc, Walid Mesloub, le dernier Algérien en date au FC Lorient. Ça manque, les Algériens au FC Lorient ?
Bah ouais, je suis très... franchement, moi, je suis resté impressionné par le contingent algérien qu'on a pu avoir. Franchement, il y avait de la qualité technique. Moi, franchement, pour avoir vu peut-être dans les années où je suivais avec le plus de ferveur le FCL, Saïfi, je trouve que c'était incroyable. Incroyable, ce joueur.
Tu veux faire le top 5 all-time des Algériens du FC Lorient?
Saïfi.
Tu mets Saïfi en 1, Saïfi en 2.
Ouais, et je pense qu'en 3, ça peut paraître bizarre, mais je mettrais Ziani. Parce qu'il a porté
pas...
l'équipe.
Je pense que c'est pas bizarre du tout en fait.
Ouais, il a vraiment porté l'équipe à son époque.
Ouais, un petit Yazid Mansouri en 4.
Ouais, parce qu'il a bien dépanné dans l'entrejeu aussi sur le côté droit alors que c'était pas son poste. Donc ouais.
Toutes nos excuses à Jamel Tremkani et Kenan Mahi, hein, qu'on connaît pas leur niveau de jeu, donc on va pas se permettre de les classer. Et en 5, eh ben. Ça se joue entre Walid Mesloub et Karl Medjani. Hein.
Ah ouais, ouais. Mostefa.
Non, soyons sérieux.
Ouais, non, allez, si vous mettons Mesloub.
C'était un guerrier, Mostefa, et pour les opérations maintien, parce que tu veux, c'était
oui,
très
c'est
bien.
Ça. Mais... Ouais. Walid non, Mesloub. Mettons Mesloub.
Ouais, Walid Mesloub, puis en plus, pour ses activités hors football, c'est quand même. C'est comme dans la légende du FCL. Donc...
C'est clair.
Donc voilà, bon, ben voilà, on va se laisser là-dessus sur Walid Mesloub. On espère qu'il nous écoute depuis.
Non, 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 non.
depuis là où il est.
Voilà.
Depuis là où il est. J'ai rien dit. Raph, merci beaucoup.
Bah, merci à toi. Merci à toi. Et puis...
Oui, dis-moi, vas-y.
Non, c'était tout. Je te remercie une nouvelle fois d'être là, de répondre présent à chaque fois, puisque sans toi, on ne pourrait pas faire ce podcast, puisque c'est toi qui anime.
Si, vous le feriez moins bien, mais vous le feriez.
On l'a fait une fois. On l'a fait une fois.
Ouais, et on a perdu 50 abonnés, je crois.
C'est ça. C'est à peu près ça. C'est pour ça qu'on a arrêté, d'ailleurs.
C'est ça, exactement. La suite du programme pour nous, c'est quoi? C'est le live de fin de saison sur Twitch, probablement. Ouais, on va faire un petit débrief.
On a plusieurs choses. Je pense que du coup, on essaiera de vous réserver quelques surprises avec plusieurs intervenants d'ici la fin de la saison. Un gros Twitch de fin de saison pour faire le bilan et revenir sur pas mal d'aspects chronologiquement, quelques thématiques aussi, puis l'après, le mercato, etc. Et puis voilà, c'est déjà pas mal déjà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on essaiera de communiquer si on a.
Si ça se concrétise.
Voilà, c'est ça, on veut pas non plus. On veut pas non plus trop en dire, mais on a des idées en tout cas. On a envie de développer certains projets, donc. On essaie de se structurer aussi, donc. Et puis on va essayer aussi de vous solliciter. Pour la remise du trophée.
Je pensais que t'avais demandé de la thune aux gens comme ça.
Non, pas du tout. Mais comme chaque fin de saison, on vous demandera
de voter
pour plusieurs trophées, et notamment la taverne d'or. Et on essaiera
la taverne d'or qui...
La taverne d'or aux gagnants.
Suspense, c'est à son comble. Ouais. Donc les trophées de fin de saison, on rappelle, c'est taverne d'or du meilleur joueur de la saison. Le doute est insoutenable.
On verra du coup le choix des auditeurs. On leur fait confiance.
Oh, totale confiance dans nos auditeurs. Mais rappelez, on a quand même des votes, nous aussi, attention. La meilleure progression, le rookie de l'année et le flop de la saison. Mm. On rappelle qu'Adrien Garbitch, détenteur du titre depuis 8 saisons. Tel un dictateur africain, Adrien Garbitch Trust.
Malgré le veto automatique de Pierrot.
C'est ça. Donc pour les trophées, on va pas tarder à s'activer, parce que je pense que la messe est dite, mais d'ici 3-4 journées, je pense qu'on va pouvoir commencer à procéder au vote. Et on vous tiendra au courant. D'ici là, on vous remercie d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Si vous nous regardez sur YouTube, vous vous abonnez, vous mettez des petits likes, des pouces, des machins, la petite cloche. Et sur les plateformes de streaming audio également, merci de vous abonner, de mettre des petites étoiles ou ce que vous voulez sur ces plateformes. Ça nous aide beaucoup. Merci à tous. Raph, rendez-vous dimanche au parc.
Ouais, parkage pour moi avec beaucoup de monde, ça va être sympa, c'est cool.
Puis en plus, comme ça s'est plutôt bien passé tes derniers déplacements, ça sent la grosse branlée encore pour.
Écoute, je suis pas verni, hein. Donc déplacement à Lille, défaite.
T'étais pas du Reims du 4-1, c'est ça?
Non, ouais, il y avait 2-0, on a perdu
4-2, pas 4-1, pardon.
Par contre, j'ai quand même une victoire sur le déplacement à Rennes en début de saison, un match nul à Toulouse puisque j'avais fait le 2-2, donc bon. Bilan pas terrible.
Pour pas dire mauvais.
Ouais. Et puis j'ai quand même cette première place à conserver sur les.
On s'en fout de ça.
L'orientation. Oui, je sais, mais ça t'énerve parce que
tu as commencé à jouer
et tu as lâché l'affaire.
Quand j'ai vu que j'étais nul, j'ai arrêté. Merci Raph, à bientôt. Merci de nous suivre toujours aussi nombreux. Ciao.
Yes, merci à tout le monde. Ciao, ciao.